Aujourd'hui, le Rwanda ne définit personne comme son ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, a tenu à déclarer le président Paul Kagame lors de son investiture pour son troisième mandat le 18 août dernier. Dans ce petit pays des Grands Lacs où le génocide des Tutsis a fait plus de 800 000 morts en 1994, Paul Kagame fait figure d'homme fort qui a su faire renaître le Rwanda et développer son économie. Une reconstruction et une croissance à marche forcée au détriment des libertés et par la répression des opposants dénoncent plusieurs organisations de droits de l'homme. Le 7 juillet dernier, un mois avant l'élection présidentielle, Amnesty International a publié un rapport dénonçant un climat de peur, de répression et d'atteinte à la liberté d'expression. Sarah Jackson travaille sur l'Afrique des Grands Lacs pour Amnesty International à Nairobi. Elle suit de près la situation au Rwanda.
Il y a toujours eu des sujets sur lesquels il a été possible de travailler au Rwanda. La question des femmes, l'environnement. Mais lorsqu'on touche à des sujets plus polémiques, comme les droits civils et politiques, le droit à la liberté d'expression, de réunion, d'association, cela fait des années que c'est très difficile.
Sarah Jackson regrette que les autorités rwandaises ne permettent aucune contestation, contrairement à d'autres pays de la région, comme le Kenya.
On constate que les organisations kényanes arrivent à parler haut et fort au Kenya. Malheureusement, au Rwanda, sur des questions sensibles, ce n'est pas possible. C'est pour cela que des organisations internationales comme Amnesty International ou Human Rights Watch doivent continuer à fournir des informations sur les violations des droits de l'homme au Rwanda pour faire part de ces questions aux autorités et essayer de travailler avec elles pour améliorer la situation.
La conséquence de ce climat d'oppression, c'est l'absence de toute opposition politique et l'impossibilité pour les défenseurs des droits de l'homme de faire leur travail au Rwanda, souligne Sarah Jackson.
Au cours des dernières années, on a pu observer que les défenseurs des droits humains quittaient le pays ou qu'ils s'auto-censuraient car la situation est très compliquée depuis longtemps. Il n'y a aucune organisation locale qui puisse travailler de façon indépendante sur ces questions sensibles sans être victime de représailles.
Sarah Jackson cite l'exemple de la LIPRODOR, la Ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme, dont le conseil d'administration a été remanié. Son président, victime de menaces de mort, a dû s'exiler en 2014. La LDGL a elle aussi subi des pressions. La Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, son secrétaire exécutif a dû fuir le Rwanda en 2010 suite à de graves menaces. Aujourd'hui, sur le papier, la LDGL existe, mais contrôlée par le pouvoir en place. Quant aux ONG internationales, elles continuent à faire leur travail et à se rendre dans le pays pour maintenir le dialogue avec les autorités, insiste Sarah Jackson.
La communauté internationale investit massivement au Rwanda pour soutenir les efforts de développement. On a pu observer de grandes avancées en termes de droits économiques et sociaux. Mais ces droits socio-économiques, grâce au développement, ne seront durables que s'ils vont de pair avec le respect de la liberté d'association, le respect de la liberté d'expression, de réunion. Il est donc très important que les partenaires économiques du Rwanda s'engagent avec le gouvernement dans une négociation ferme. Ce n'est que de cette façon que cela pourra aider le Rwanda à consolider tous les progrès qui ont été accomplis, par exemple en termes de droit à la santé ou de droit à l'éducation.
De son côté, l'organisation Human Rights Watch a publié une chronologie des violations des droits de l'homme recensées depuis 2016 jusqu'aux élections début août.